puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the world. We are
the children.
La puce à l'oreille sur Radioscope 107.
Bonjour, la puce à l'oreille, aujourd'hui de nouveau de retour pour une deuxième émission consacrée au forum Citoyenneté et Handicap Bien Vivre Ensemble, organisé par la ville de Lambre-les-Douées le mercredi 17 octobre. Aujourd'hui, nous allons parler emploi des personnes vivant avec un handicap. Et avant de nous intéresser au travail adapté dans le Douaisis, je vous propose de partir à la rencontre de deux structures, Cap Emploi et le GEC, qui se sont rendus à ce forum Citoyenneté et Handicap. Et pour Cap Emploi, je vous propose de retrouver Cyril Bonnac. Il nous explique la structure et son rôle dans l'emploi des personnes vivant avec un handicap.
Cap Emploi, on est organisme d'insertion professionnelle, donc accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap, et aussi on accompagne les entreprises. Alors quand je parle d'entreprises, les entreprises qui effectivement ont une politique handicap ou souhaitent développer leur politique handicap pour l'intégration des personnes reconnues travailleurs handicapés. On s'adresse en fait à trois types de publics. Le premier, c'est les personnes en situation de handicap. Le second, c'est l'employeur. Mais aussi, on s'adresse aussi à des médecins du travail en l'occurrence, qui auraient pointé une situation d'un salarié en difficulté sur son poste de travail et sur lequel il a besoin d'un aménagement de poste et d'un maintien à son poste de travail. Demandeur d'emploi, employeur, mais aussi salarié. Voilà nos trois types de publics avec lesquels on travaille et pour qui on œuvre. Les personnes en situation de handicap, demandeurs d'emploi. Le public prioritaire sont des personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Qu'est-ce qu'on entend par bénéficiaire de l'obligation d'emploi ? Donc des personnes qui possèdent un titre, la reconnaissance travail handicapé, qui s'obtient via la maison départementale des personnes handicapées. Donc c'est une demande qui est à faire sur le territoire du Nord, donc à Villeneuve-d'Ascq. Et pour le Pas-de-Calais, c'est, il me semble, Arras. Les titres de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il y a la pension d'invalidité, l'allocation adulte handicapé, la carte d'invalidité, la reconnaissance travail handicapé, et je rajouterai la rente d'accident du travail également. Tous ces titres font partie, effectivement, du statut de bénéficiaire. Et j'ajouterai une nuance aussi, c'est qu'on s'adresse bien à un public pour qui le handicap est un réel frein à l'emploi. Alors je précise cette nuance parce que des personnes peuvent avoir une reconnaissance travail handicapé, un boulanger par exemple qui est allergique à la farine et qui ne peut plus exercer, va pouvoir solliciter une reconnaissance travail handicapé mais n'est pas dans l'obligation d'être suivi par Cap Emploi car il aura retrouvé de lui-même, par ses propres moyens, par son propre réseau, sans passer par un organisme d'accompagnement. Voilà, c'est un exemple typique. Sur le service employeur, notre travail, donc on est une équipe de 8 personnes et interviennent pour sensibiliser les dirigeants, les managers, les équipes de travail sur ce que c'est le handicap, démystifier le handicap, faire en sorte que justement ce ne soit pas un sujet tabou et que ce soit abordé en entreprise. Et effectivement, récolter les besoins en recrutement fait partie de notre travail aussi, parce que l'idée, il n'y a pas d'intégration sans forcément prise de connaissance de la réalité de l'entreprise. Et l'intérêt, c'est bien de proposer des profils de personnes compétentes avec cette particularité d'avoir une reconnaissance travail handicapé. Donc voilà, notre travail, c'est vraiment d'être au plus proche des entreprises, comprendre leurs attentes et pouvoir faire un rapprochement entre attentes, besoins et aussi attentes du candidat en termes d'emploi. Comme je précisais, les médecins nous interpellent aussi sur des situations de travail. Donc concrètement, pour être un peu plus pratique, un salarié est en difficulté sur son poste de travail. Il a fait part à son employeur de la possession de sa reconnaissance travail handicapé. Il peut directement aller voir le médecin du travail, s'entretenir avec lui, s'accorder sur les difficultés que présente son travail aujourd'hui, en tout cas que lui, les difficultés qu'il est en train de vivre. Et de fait, le médecin du travail nous appelle en disant, voilà, j'ai ce salarié lambda qui aujourd'hui est en difficulté sur son poste. Je vous demanderai d'intervenir pour voir les solutions d'organisation ou techniques que l'on peut mettre en œuvre pour que ce salarié se maintienne au poste. Donc là, ça nécessite une intervention d'un ergonome. Donc un ergonome, c'est une personne qui va étudier le poste de travail, la posture de travail, le matériel qui est utilisé pour assurer son travail. Et en fonction de cette analyse, il y aura des propositions d'aménagement qui seront faites. Donc concrètement, ça peut être, là dernièrement, on avait l'exemple d'un grutier qui était en difficulté sur son poste et il était toujours penché pour regarder au sol. Et il y a eu des installations tout bonnement de miroirs qui lui ont permis de regarder ce qui se passait en dessous de lui et sans forcément solliciter le dos. Donc voilà, c'est un exemple d'aménagement qui n'est pas banal parce que voilà, c'est un métier aussi qui n'est pas banal, grutier. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres que je soulève. Après, en termes de chiffres, pour vous situer, on a 3800 personnes suivies sur la métropole lilloise et le Douaisis en termes de demandeurs d'emploi. Donc, ce qui fait quand même assez conséquent aujourd'hui. On a à peu près 1600 entreprises qu'on accompagne justement sur des besoins en recrutement et sur la sensibilisation au handicap. Et sur en nombre de maintiens, on est à peu près à 600-700 personnes qui sont maintenues chaque année grâce à notre intervention sur leur poste de travail.
Cyril Boninck pour Cap Emploi à l'occasion du Forum Citoyenneté Handicap Bien Vivre Ensemble organisé par la ville de Lambourg-les-Douais le mercredi 17 octobre. Et puis présent également sur ce forum, on va retrouver le GEC présenté par Alexandre Bensoussan. Là aussi, il est question de l'emploi des personnes vivant avec un handicap.
Donc le GEC Emploi et Handicap, c'est un groupement d'employeurs en faveur de l'insertion et la qualification des personnes en situation de handicap. Donc au sein du GEC Emploi et Handicap, on a une démarche particulière pour nos salariés. Je vous dis bien pour nos salariés, car le GEC Emploi et Handicap a avant tout un rôle d'employeur, c'est-à-dire que nous recrutons des personnes et nous les mettons à disposition au sein de nos entreprises adhérentes. Donc pour nos salariés, on vise une démarche de montée en compétences pour eux. Donc qui dit montée en compétences dit période de formation, et c'est pour cette raison qu'on travaille principalement par le biais de l'alternance. Et on leur permet ainsi soit de se réinsérer dans le monde professionnel, soit on les accompagne dans leur reconversion professionnelle. Donc notre rôle au sein du GEC Emploi et Handicap se résume en quatre mots qui sont assez forts pour nous. Donc c'est recruter, former, accompagner et embaucher. Donc on va recruter pour nos adhérents les salariés. On va mettre en place justement toute la partie de formation pour pouvoir les former. Et on a également un rôle de suivi et d'accompagnement tout au long du parcours, que ce soit pour nos salariés et pour nos entreprises adhérentes, pour vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour que le parcours se passe dans les meilleures conditions. Et bien sûr, la finalité du parcours avec le GEC, c'est une embauche à la clé. Car je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres concernant justement le retour à l'emploi et l'embauche de nos salariés, mais ça fait partie de la finalité d'un parcours avec le GEC. En France, on a quasiment 200 GEC. Chaque GEC a soit un secteur d'activité, soit un type de public. Donc pour le nôtre, nous avons choisi donc le type de public, qui est donc les personnes en situation de handicap. Et au niveau de l'activité, nous sommes multisectoriels. On peut aller donc de l'énergie à la relation client, jusqu'au domaine bancaire, à l'informatique. Donc on n'a aucun frein, en tout cas, au niveau des métiers. On reste ouvert à tous les métiers et à toutes les entreprises. Donc en 2017, on avait donc 76 entreprises qui étaient adhérentes au sein de notre GEC. On a eu 101 embauches de collaborateurs en situation de handicap. Sur nos 101 salariés, on a eu 85% d'obtention de qualification. Et enfin, on a eu 74% d'embauches après le GEC. Donc c'est également un chiffre qui est très important pour nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Notre finalité au sein du GEC, c'est que nos salariés puissent retourner vers un emploi pérenne, à la fin du parcours avec le GEC.
Alexandre Bensoussam pour le GEC, présent sur ce forum Citoyenneté et Handicap Bien Vivre Ensemble, organisé mercredi 17 octobre par la ville de Lambreau-les-Doués. Et après avoir parlé insertion et qualification des personnes vivant avec handicap, nous irons faire un focus sur le travail adapté dans le Douaisi. Ce sera juste après une pause musicale.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé. À l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Et aujourd'hui, deuxième émission consacrée au forum Citoyenneté et Handicap Bien Vivre Ensemble. C'était organisé le mercredi 17 octobre à Lambreau-les-Doués et par la ville de Lambreau-les-Doués. Aujourd'hui, on parle de l'emploi de la personne vivant avec un handicap. Et après avoir parlé insertion et qualification des personnes avec Cap Emploi et le GEC, je vous propose un focus sur le travail adapté dans le Douaisis. Et nous allons retrouver Sophie de Rognoncourt, directrice du pôle travail adapté pour l'association des Papillons Blancs de Douai, Johan Lécuyer, directeur de l'ESAT de Lambreau-les-Doués et du Raquet, et puis Amine Abdella, responsable des services d'insertion, toujours au Papillon Blanc. On parle à présent dans ce grand forum du travail adapté dans le Douaisis.
Avant de démarrer sur la question du travail adapté, on souhaitait vous refaire un petit focus sur qui est l'association des Papillons Blancs. L'association des Papillons Blancs, c'est d'abord une association parentale qui fait partie d'un mouvement plus important, mouvement national d'abord, donc connu sous le nom d'une APUI. Il vient d'y avoir une campagne concernant la vente de brioches, hein, donc vous avez dû forcément en entendre parler. Elle se décline aussi d'un point de vue régional. On a donc une APUI Hauts-de-France, départementale et donc locale. Donc localement, il y a un certain nombre d'associations Papillons Blancs. Et sur le Nord, il y en a 9. Ces 9 APUI, c'est plus de 12 880 personnes qui sont accompagnées. C'est 6 000 salariés. Et en France, l'une APUI, c'est 200 000 personnes accompagnées. C'est d'abord une association parentale, c'est important de le rappeler. Depuis ce matin, on évoque la place des familles. Donc l'APUI, c'est d'abord une association de parents qui aura 60 ans en 2022, dont l'objectif, c'est vraiment d'apporter un soutien moral, matériel, à la fois aux personnes, alors vivant le handicap, hein, on le dit comme ça depuis ce matin, et en même temps à leur famille. Et l'idée, c'est de garantir à la fois la notion d'accompagnement et en même temps de garantir la défense des droits des personnes. Le projet de l'association, l'association, elle s'engage à apporter aux parents, aux personnes qui présentent majoritairement un handicap intellectuel, une déficience intellectuelle, mais depuis plusieurs années aussi, l'association accueille des personnes qui présentent des troubles associés, du handicap psychique, le polyhandicap, les troubles envahissants du développement, dont l'autisme. Eh bien, c'est de leur apporter tous les services dont ces personnes peuvent avoir besoin. C'est un service, c'est du soutien, c'est du conseil et c'est de l'accompagnement du plus jeune âge jusqu'en fin de vie. Ces services, ils vont se déployer au travers d'un certain nombre d'établissements. Et sur le Douaisis, nous avons 29 établissements et services. Alors ça surprend toujours quand on cite ces chiffres. On se dit, bah, le Douaisis c'est grand, mais c'est si grand que ça pour avoir 29 établissements? Bah oui, parce qu'on a des établissements pour enfants, des établissements pour adultes, des établissements pour personnes polyhandicapées. Et puis on a un tas de services, il y en a plusieurs ici qui sont représentés, dont le service d'accompagnement à la vie sociale et le service d'aide à la parentalité. Alors l'association, elle se fonde sur cinq valeurs très fortes qui nous rassemblent pour la plupart aujourd'hui. D'abord la question des droits et des compensations. C'est vrai que ce matin, il y avait un débat sur le terme de compensation, puisque compensation voudrait dire compenser quelque chose. Alors c'est vrai que sur la notion d'inclusion, ça peut poser un certain nombre de questions. En tout cas, c'est quand même la défense des droits, c'est de dire que chacun a accès à tout. Voilà, tous ont accès à tout. C'est aussi la question de la solidarité, qui est une valeur très forte au sein de l'association. Mener ensemble des projets, vivre ensemble, soutenir ensemble les familles, soutenir ensemble les personnes. C'est la question de l'unicité, c'est reconnaître que chaque personne qui est accompagnée a une singularité, elle a un projet particulier et qu'on ne peut pas vouloir copier les projets. Voilà. Chaque situation doit être vue de façon très personnalisée. Et puis c'est la question de la citoyenneté, c'est être soi dans la société. Voilà, comment on fait pour vivre dans une forme d'inclusion la plus ouverte possible, comment on fait pour être présent. Et puis, comme c'est un mouvement parental, forcément, la question de la vie associative, c'est essentiel pour toutes les associations qui sont là aujourd'hui. Elles savent que le nerf de la guerre, c'est avant tout ces bénévoles qui portent, qui donnent gratuitement, qui donnent bénévolement et qui sont présents. Donc il faut faire vivre ce mouvement, accueillir les nouveaux parents et épauler bien sûr ceux qui sont là depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, on va parler plus précisément de la question du travail adapté. Donc le travail adapté, c'est un des pôles de l'association. On est organisé sur le champ de l'enfance, du polyhandicap, de l'habitat et puis autour de la question du travail. Alors pourquoi cette organisation? Parce que le travail, ça peut prendre un tas de formes différentes. Et au TAD, c'est travail adapté, on a l'habitude de parler de la palette des possibles. Nous, notre clé d'entrée, c'est de dire que, quelle que soit la demande de la personne, l'idée, c'est justement qu'elle soit la plus citoyenne possible, c'est lui offrir la possibilité de faire le choix d'un projet professionnel et qu'elle puisse l'exercer selon la modalité qui lui convienne le mieux. Ça veut dire que nous, dans le travail adapté, on va pouvoir parler des ESAT, ce qu'on appelle vraiment le milieu protégé, on va pouvoir parler d'entreprise adaptée, le milieu adapté, et on va parler du milieu ordinaire avec nos services d'insertion. Je vais laisser la parole à Hamid et à Johan pour vous présenter un petit peu plus la finalité.
Donc la finalité du travail adapté du Douaisis et la finalité de l'entièreté des actions qui sont portées par le travail adapté du Douaisis, c'est la promotion de la personne handicapée par le travail. Donc on a une approche originale qui réside dans une volonté en fait d'aborder de manière globale la question du travail des personnes handicapées, mais également de la lier avec les questions liées à l'accompagnement médico-social, celles relatives à l'exercice d'une activité professionnelle, donc qui se décline à travers la formation, l'insertion, l'adaptation du travail. Néanmoins, ce premier point d'approche globale qui nous semble important, on pense qu'il ne serait pas forcément efficient s'il n'était pas renforcé par un second point qui nous semble tout aussi important, voire plus important, c'est celui de la citoyenneté. L'offre de services au sein du TAD, elle se veut un soutien avant tout à l'expression de la citoyenneté des personnes handicapées. effectivement en train de fond, on a les questions de travail, d'insertion professionnelle, de formation, mais avant tout, c'est cette volonté de soutenir les personnes pour qu'elles puissent s'exprimer en tant que citoyens, exprimer leur citoyenneté. Et donc, qui dit citoyenneté, dit droit et devoir. Et donc, dans les différentes actions portées par le Pôle TAD, chaque jour, au travers des différentes actions, s'expriment les droits et les devoirs que les personnes, en fait, rencontrent dans les situations de travail ou dans les situations d'insertion professionnelle dans lesquelles elles sont engagées. Au niveau des droits, c'est par exemple les questions relatives à l'autodétermination, à la participation, à l'expression, le choix, choisir son projet professionnel, pouvoir s'exprimer, pouvoir participer. C'est également au niveau des devoirs, c'est toutes les questions qui sont relatives au vivre ensemble. C'est comment vivre ensemble au sein d'un collectif. Donc même dans les situations de travail, dans les différentes composantes du pôle TAD, il s'agit également de vivre ensemble dans des situations professionnelles. Il s'agit de vivre ensemble dans la construction de son projet professionnel au niveau des formations. Donc il s'agit en fait, quelque part, pour compléter cette approche globale, de mettre à disposition des personnes accueillies un ensemble de pistes à explorer. Ma collègue Sophie de Renaucourt parlait de palette des possibles, qui est une très jolie expression, et où on cherche avant tout à favoriser l'expression fondamentale des personnes, de leur famille, dans des choix qui les concernent.
Alors un petit point, depuis ce matin, on a aussi évoqué le rapport à la réglementation. Quand on parle du travail, avant même de parler de 2005 et de 2002, il y a forcément, pour ceux qui sont très en lien avec l'entreprise, d'abord la loi de 87, celle qui a forgé l'obligation d'emploi pour les entreprises. Vous imaginez, c'était 1987. C'était le moment où on a créé la GFIP, etc., l'obligation d'emploi. La volonté, c'était que dans toutes les entreprises, les personnes handicapées soient insérées et présentes. 87, je vous laisse faire le calcul. Le résultat, quel est-il aujourd'hui ? Nous, on défend l'idée que l'entreprise peut effectivement avoir le choix d'embaucher directement. Quand elle fait le choix d'une autre modalité, pourquoi pas ? En tout cas, nous, ça nous a interrogés sur la façon dont on accompagnait les personnes et la façon dont nos établissements étaient organisés. Et il a fallu, depuis 2002, depuis 2005, complètement réinterroger le fonctionnement, notamment des ESAT et des entreprises adaptées. Ça s'appelait auparavant, et ces mots vont vous rappeler un certain nombre de choses, des CAT et des ateliers protégés. Voilà, il y a eu un basculement et il y a eu un changement de pratique professionnelle. Et c'est vrai qu'on aime à dire aujourd'hui que celui qui vient revisiter nos établissements découvrirait des modalités d'accompagnement totalement différentes de ce qu'on pouvait pratiquer il y a déjà plus de 10 ans. Il a fallu qu'on se modernise, il a fallu qu'on innove, il a fallu qu'on développe de nouvelles formes d'accompagnement. Et ça, on y est très attaché et on a d'autant plus à cœur d'ouvrir nos établissements aujourd'hui pour montrer ce qu'on a été capable de faire. C'est aussi une forme d'adaptation, à la fois pour les personnes, mais déjà de notre propre part en tant que professionnels.
Alors, quel public accueilli, effectivement, accompagné au niveau du TAD ? Sophie le disait tout à l'heure, majoritairement des personnes déficientes intellectuelles, avec des troubles psychiques, parfois de l'autisme, et des troubles associés, effectivement, à la déficience principale. Cela se caractérise, en fait, par des altérations des capacités intellectuelles, des difficultés de repérage dans l'espace, dans le temps, qu'il va falloir forcément prendre en compte dans la manière d'accompagner ces personnes, des difficultés de concentration qu'il va falloir effectivement prendre en ligne de compte dans le cadre de la mise en œuvre de l'activité de travail et de mémorisation. Par contre, ce public, ces personnes accompagnées, marquent généralement une très forte motivation au travail, une rigueur, une application qui sont des points très importants dans la construction d'un parcours professionnel. Souvent on en sourit, mais c'est vrai qu'on est toujours surpris de voir nos travailleurs venir travailler alors qu'ils ont posé une journée de congé. Bon, c'est quand même pas commun, voire même faire une heure et demie de marche parce qu'il n'y a pas de transport en commun et que c'est enneigé partout. Voilà, bon, c'est quand même des points forts, une motivation réelle à travailler. La manière de faire, effectivement, notre force, c'est un accompagnement pluridisciplinaire. Un travail sur deux axes, le champ de l'activité économique, le champ du travail. On va accompagner effectivement les personnes dans la construction d'un parcours professionnel. On va travailler sur le geste professionnel, sur les compétences au poste. Donc là, on est clairement sur la partie travail avec l'accompagnement effectivement des moniteurs d'atelier, des accompagnateurs, des encadrants techniques. Et puis pour ce faire, effectivement, pour favoriser les conditions d'exercice de cette activité, parce que ces personnes, de par leur situation sociale, leur handicap, ont forcément effectivement besoin d'étayage, ont besoin d'aide sur un certain nombre de plans. Un soutien médico-social est proposé. Alors tout à l'heure, on parlait effectivement de de l'accès à la santé, bah, en ESAT aussi, par exemple, pour donner des éléments concrets, on a des actions de prévention de santé, justement, parce que pour pouvoir bien travailler, bah, il faut être en bonne santé pour pouvoir travailler. Donc effectivement, d'où ces actions de sensibilisation. Il faut aussi avoir confiance en soi, parce qu'on parle d'autodétermination, pardon. Et bien, on a des actions effectivement d'accompagnement, alors aussi bien des actions d'activité de soutien en interne ou des actions via l'extérieur, via la formation, grâce aux services d'insertion, qui vont venir faire en sorte d'actionner des deux leviers pour que les personnes puissent avoir plus confiance en elles et ainsi être mieux effectivement dans l'exercice de leur activité professionnelle. Et puis dernièrement, aussi notre force, c'est effectivement d'adapter le travail à nos personnes. C'est-à-dire, on part du postulat que d'une tâche complexe, on peut la décomposer en plein de tâches simples qui sont accessibles aux personnes. Donc ça, c'est la force effectivement de nos équipes techniques, que de venir effectivement décortiquer le travail, de le rendre accessible en mettant en place, effectivement, faisant tout un travail sur le poste, faisant tout un travail sur la décomposition des tâches pour la rendre la plus simple et la plus accessible. Donc on est sur la notion d'accessibilité, effectivement. Alors, cette palette des possibles qu'on évoque pour la troisième fois, effectivement, c'est un certain nombre de structures qui sont différentes, complémentaires. Alors, aussi bien du milieu protégé, que sont les ESAT de l'Ambre, de l'Ambre-les-Douais, du Raquet et des Molettres. Donc là, on est sur des établissements médico-sociaux qui vont accueillir des personnes. Donc on est sous le champ du code du travail. On accompagne, effectivement, par le support du travail, ces personnes. On est dans le champ du milieu protégé. Ensuite, on arrive effectivement sur l'entreprise adaptée où là, on est en milieu adapté, alors qui est inclus dans le milieu ordinaire, mais qui reste adapté. On est effectivement avec des salariés de droit commun qui travaillent au sein de l'entreprise, une entreprise qui a plus de 80% de personnes en situation de handicap. Et puis dernièrement, l'accompagnement via les services d'insertion complètement au milieu ordinaire. Donc l'accompagnement effectivement à l'accès à l'emploi et dans l'emploi. Donc au total pour le TAD, ce sont 400 travailleurs en ESAT, 70 salariés handicapés en entreprise adaptée, 160 personnes en situation de handicap qui sont accompagnés par les services d'insertion. Donc vous voyez quand même qu'en termes d'accompagnement, ça représente quand même un effectif très important, avec une liste d'attente notamment pour les ESAT, avec un besoin sur les territoires effectivement qui est relativement important. Voilà, il y a un besoin qui est là.
Donc cette palette des possibles, où on parle également de pistes à explorer, elle se décline à travers les différentes entités qui composent le pôle travail adapté du Douaisis. Qu'on va un peu vous présenter. Il ne s'agit pas du tout de faire une présentation exhaustive. Il s'agit juste de ce qu'on voulait, c'était la présentation. Vous pouvez toujours la retrouver sur notre site internet. Ce qu'on veut, c'est surtout mettre en relief quelques points saillants de cette palette des possibles, de ces pistes à explorer. Et ce sur quoi on aimerait également insister, c'est sur la place des personnes dans cette déclinaison. Il s'agit certes de les inscrire dans une réalité économique, marché du travail, recherche d'emploi, insertion professionnelle, avec toutes ces questions, ces difficultés que ça pose à toute personne, à tout citoyen, quand il veut s'intégrer professionnellement. Mais c'est surtout ce sur quoi on va insister, c'est les marges de manœuvre que le pôle TAD permet aux personnes. On parlait d'autodétermination, on parle de participation, de choix. C'est quels sont les leviers un peu qu'on active pour construire ces marges de manœuvre qui vont permettre l'autodétermination, qui vont permettre la participation, qui vont permettre l'insertion des personnes. La construction de ces marges de manœuvre, par exemple, au niveau de l'entreprise adaptée, elle se fait par le biais de la professionnalisation. Donc, on vous parle de formation et d'adaptation au travail des salariés. À titre d'exemple, on peut citer 17 personnes qui ont pu accéder à 17 titres professionnels sur les 3 dernières années. La construction de ces marges de manœuvre, elle se fait également par la mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois et compétences classiques, comme celle qu'on trouverait dans une entreprise classique. Là, il s'agit d'anticiper les évolutions en compétences des personnes, les départs en retraite, mais également, pour certains, l'aggravation du handicap. Parce qu'il n'est pas possible pour toute personne de basculer sur une entreprise classique. Au niveau des ESAT, il s'agit, comme le disait mon collègue Johan, d'offrir un soutien médico-social et éducatif, mais également proposer, par le biais des différents ateliers, des formations adaptées, de soutenir la valorisation des compétences. À ce titre, on a engagé dans le dispositif différent et compétent. Il s'agit également, à travers la mise en place du plan de formation en ESAT, financé par le biais de UNIFAF, de permettre aux personnes de répondre aux besoins de personnes en montée en compétences. C'est-à-dire que le plan de formation ne se décline pas uniquement sur des formations pour répondre à l'évolution des activités des ESAT ou à des problématiques de sécurité. Il y a également une partie du plan de formation qui tient compte de la demande des personnes. Au sein des services insertion, la construction de ces marges de manœuvre, elle se fait par le biais de la prise en compte des parcours singuliers des personnes. En fait, donc, c'est la rencontre d'un accompagnement individualisé de parcours singuliers. Il s'agit en fait, dans cet axe, de mettre la demande de la personne au centre du projet. Et c'est cette demande qui va conditionner l'intervention des professionnels et la construction du projet professionnel. Il s'agit également de favoriser la connaissance du handicap dans le monde du travail. Il s'agit de déconstruire certains réflexes qui parfois associent bien souvent handicap et incompétence, handicap et faible productivité. Et également favoriser au sein de l'entreprise cette idée que la diversité fait du bien et qu'il y a un véritable enjeu de performance pour l'entreprise à accueillir la diversité. Et donc cela passe également au niveau de l'entreprise par la connaissance du handicap, par le management de la singularité et par le fait que l'entreprise, elle se doit d'écouter les signaux, certes parfois faibles, qu'envoient les personnes, mais qui sont quand même présents et d'accepter la différence.
Vous voyez que nos objectifs, en fait, ils sont doubles. Ils sont à la fois au titre de l'accompagnement des personnes elles-mêmes dans la construction de leur parcours professionnel et puis surtout de leur réussite. On va donc élaborer avec chacune d'elles un projet individualisé qui va être revu chaque année, ajusté, en fonction du développement des compétences, en fonction aussi des difficultés que chacun va pouvoir rencontrer et en fonction des désirs de vouloir faire évoluer son projet. Quitter l'ESAT pour aller vers le milieu ordinaire, quitter l'entreprise adaptée pour revenir dans un ESAT parce qu'on a besoin d'une réassurance, quitter les services d'insertion pour aller dans un sens ou dans un autre. Et ça, c'est vraiment l'idée de l'exercice de la citoyenneté, c'est-à-dire être en capacité de faire le choix, de construire le parcours qui nous va bien au bon moment. Et puis notre objectif aussi, c'est d'être dans une réalité économique sans laquelle, si notre accompagnement n'était que médico-social, il serait forcément à côté de la mission qui nous est confiée. Donc il faut qu'on ait, nous, une bonne connaissance de l'attente des entreprises, des collectivités, des entreprises, quelles qu'elles soient, les grandes mais aussi les petites, l'artisan qui est au coin de notre rue, pour pouvoir ajuster nos réponses. Donc on va travailler avec toutes ces entreprises et collectivités, déjà à leur expliquer en quoi travailler avec les personnes que nous leur proposons, c'est d'abord une opportunité, c'est pas une réponse à une obligation d'emploi. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que les choses sont vécues. Et on va décliner avec elles un tas de possibilités de réponses. Ça va être de la mise à disposition de personnes, ça va être de l'insertion directe, ça va être faire appel à une sous-traitance dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée, ça va être de la prestation de service en entreprise. Et des exemples comme ça, on en a plein. On a des parcours de 10 ans, de 20 ans avec certaines entreprises, on a des parcours ponctuels, on a toute forme de réponse. On a des gens qui sont à l'emploi dans des entreprises depuis plus de 20 ans, on en a d'autres qui rentrent, on en a d'autres qui sortent. Voilà. Donc toute cette palette des possibles, elle se traduit par, de notre côté, une capacité à écouter en permanence à la fois le besoin de la personne et en même temps de la faire matcher avec l'expression du besoin de l'entreprise qu'il nous faut décoder. Donc notre rôle à nous en tant que professionnels, c'est tout modestement d'essayer de comprendre et d'accompagner la rencontre entre les deux, entre la personne et entre le monde de l'entreprise.
Pour ce faire, effectivement, un certain nombre d'activités, un panel d'activités extrêmement large qui va nous permettre justement de répondre à la diversité des demandes, à la mobilisation des compétences de chacun. On insiste, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est vrai que le choix des personnes est déterminant. On part de là et effectivement le fait d'avoir un panel d'activités important, c'est justement permettre et pouvoir offrir en fait à chacun d'entre eux ce choix possible, cette perspective d'un nouveau parcours professionnel avec des compétences associées. Donc ces activités sont les espaces verts, en fait, traités de manière commune, aussi bien au niveau des ESAT qu'au niveau de l'entreprise adaptée, l'hygiène et propreté au niveau de l'entreprise adaptée, l'éternel conditionnement, alors que nous appelons sous-traitance industrielle, qui va réunir l'ensemble des activités d'assemblage, de packaging, de mise sous enveloppe, de conditionnement divers que nous pouvons avoir sur les deux ESAT. Ces activités-là peuvent être faites effectivement alors à la fois dans nos ateliers, ce qu'on appelle la sous-traitance industrielle, ou directement en entreprise, ce que nous appelons les prestations de services extérieurs. Nous avons sur les ESAT de Lambre le magasin de repassage-retouche. Je vous invite à venir donner vos vêtements à retoucher ou vos vêtements à repasser. Ce sera avec grand plaisir. Le bâtiment second œuvre qui fait de la peinture, de la rénovation de façade, des revêtements muraux et des revêtements de sol. notre activité de cuisine centrale. Voilà, une brigade d'une petite quarantaine de travailleurs qui fabriquent notamment l'ensemble des repas pour les établissements de l'association et qui commencent à s'ouvrir sur l'extérieur. Notre activité d'hygiène et propreté, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Notre activité de menuiserie, pardon, qui fabrique des palettes pour le transport de divers produits industriels. Et de caisses en bois, notre activité de blanchisserie sur le site de Raquet, effectivement, qui est ouvert en 2013 avec la cuisine et qui traite du linge plat, de l'éponge, du vêtement de travail, ainsi que du linge en forme des résidents d'établissements en accueil internat. Le panel est extrêmement large et forcément, c'est d'autant plus de postes et de compétences à venir mobiliser, voilà, qu'on peut venir accompagner et déployer chez chacun des travailleurs. Alors c'est vrai que c'est un challenge. Les défis sont nombreux. C'est vrai qu'avoir l'ensemble de ces activités-là, c'est pas simple tous les jours. Alors quand on parle de défis, j'aime bien. On évoquait avant de venir effectivement un peu notre histoire. En 2013, quand on a ouvert, je prends des exemples pour qui sont parlants, mais quand on a ouvert la blanchisserie, on avait des agents en fait pour le, vous voyez, le linge. Donc on traite 2 tonnes de linge par jour. On reconstitue les trousseaux des porteurs à la sortie de la blanchisserie avant de les renvoyer dans les établissements. C'est pas une mince affaire. On pensait pas en fait réussir à faire accéder ce poste-là des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, on y est. On a une équipe complète d'une dizaine de personnes qui savent tenir voilà cette activité-là. On n'y croyait pas. Enfin, c'était compliqué avec les professionnels et on voit que grâce au travail sur le terrain des accompagnants techniques, à l'intervention effectivement des services d'insertion dans le cadre de la formation spécifique au poste, aux gestes techniques, ce travail conjoint avec l'équipe médico-sociale pour aller venir travailler aussi sur l'aspect psychomoteur des choses, voilà, on y arrive. De la même manière, j'aime à donner l'exemple qu'on travaille en ce moment effectivement à l'accessibilité à des postes de chauffeurs, justement pour aller livrer le linge. Donc on est effectivement sur des postes où certes les compétences paraissent importante, mais le travail de chacun, alors déjà forcément la motivation de la personne, on part de là, elle est essentielle et en partant de ça, on a déjà pas mal de chances que ça puisse fonctionner. Sophie évoquait tout à l'heure effectivement l'histoire avec des prestations de services en entreprise. On a dernièrement, en fait, l'année dernière, terminé notre prestation chez les Brasseurs de Gaillan. Les travailleurs de l'ESAT de Lambe qui travaillaient depuis des années n'avaient pas l'impression d'être en ESAT. Ni d'être dans un établissement papillon blanc, entre guillemets, pour eux, ils travaillaient au Brasseur de Gaillan. Voilà, donc on est vraiment effectivement dans l'inclusion.
Ils appelaient effectivement les petits brasseurs. Bah pour eux, non, ils ne travaillaient absolument pas à l'ESAT de Lambre, hein. C'était les petits brasseurs. Je me demande si ce n'est pas eux qui ont le plus pleuré, finalement, quand les Brasseurs de Gaillan sont partis. Et il a bien fallu réussir à les repositionner sur d'autres secteurs d'activité. Et des anecdotes comme ça, on en a beaucoup. Pour tous ceux qui ont eu l'occasion de venir visiter nos établissements, vous savez à quel point il y a énormément de joie au travail. Alors, on a des journées difficiles, hein, quand les prods sont là, qu'on est en retard, qu'on a de la réclamation client, que les espaces verts, ça ne va pas, que la blanchisserie, ça ne va pas, ou que nos repas ont eu un souci. Voilà, mais on vit ça. On vit ça avec l'ensemble de nos équipes et en tout cas, on relève ces challenges. Et ça aussi, c'est une forme de citoyenneté au quotidien. On vit ensemble les bons et les mauvais moments et on essaye de s'ajuster en permanence. Alors moi j'ai aussi une anecdote, là c'est plus au niveau des services d'insertion. Il y a quelques années j'ai eu à accompagner une personne qui cherchait un emploi. J'étais persuadée moi d'avoir compris qu'il voulait un CDI en entreprise et puis après plusieurs mois de formation, d'essai, de stage, etc. On s'est retrouvés un beau matin, lui et moi, face à un employeur qui était OK pour lui signer un CDI 35 heures dans une entreprise de bâtiment. Et puis au moment de signer, il n'a pas signé. Il n'a pas signé et puis j'étais fort contrariée, hein, parce que c'est quand même pas facile de dégoter une entreprise comme ça, qui accepte de jouer le challenge. Il n'a pas signé parce qu'en fait, il avait d'autres préoccupations à ce moment-là. Il avait d'autres préoccupations et puis ben, l'emploi, c'était plus à ce moment-là une priorité. Ben, notre travail, c'est aussi de réussir à comprendre que ben, c'est pas grave, il faut mettre ça dans notre poche, on s'assoit un petit peu aussi, nous, sur ce qu'on avait pu projeter pour la personne. Je repense au témoignage qu'on a eu ce matin. Oui, et en tout cas, en tant que professionnel, ça nous apprend à arrêter de penser à la place de l'autre et d'essayer de se mettre finalement un petit peu à sa place en se disant ben, on va le laisser parler. Et si c'est pas le moment, ben, c'est pas le moment. Alors, c'est pour ça aussi que dans la palette de ce qu'on propose, aujourd'hui, on est, nous, très préoccupés un petit peu sur le devenir des établissements. Forcément, l'inclusion, l'autodétermination, c'est aussi prôner tout le milieu ordinaire en permanence. Nous, notre quotidien, c'est aussi de savoir qu'il y a une partie de la population pour qui ce type d'établissement, c'est une forme de réponse qui est adaptée et qui leur convient bien. Alors, on essaye de le défendre, ce modèle, en disant que, voilà, on ne prône pas plus l'un que l'autre, on dit qu'il faut cette palette des possibles. Parce que l'inclusion, c'est ça aussi. Et aujourd'hui, on est, c'est vrai, nous très préoccupés parce que nos entreprises adaptées sont gravement menacées. Le prochain projet de loi de finances, très clairement, va mettre à mal nos entreprises adaptées. Et dans quelques temps, ça sera aussi notre modèle d'ESAT qui le sera. Alors pourquoi ? Parce que c'est le seul en Europe. Voilà. Il n'y a pas d'autre ESAT qu'en France. Alors on pourrait se dire c'est une originalité ou c'est peut-être une bizarrerie. En tout cas, pour les personnes qui y travaillent, c'est pas une bizarrerie. Ça fait partie de leur vie. Et on sait aussi que des 400 travailleurs d'ESAT qui sont là, si on avait trouvé autre chose en termes de modèle, nous, on voudrait bien qu'on nous explique comment on fait. Donc ça, ça nous interpelle. Et c'est vrai qu'en tant que citoyen, on est là aussi pour interpeller les élus et leur dire attention, parce que ces modèles qui aujourd'hui pour nous sont une forme de réussite, puisque comme je vous dis, on rentre, on sort, on construit son parcours, et bien demain, si ça s'est mis à mal, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, ça c'est notre grande préoccupation, c'est notre grand sujet d'actualité.
Et bien évidemment, dans la puce à l'oreille, nous ne manquerons pas de suivre également cette actualité. C'était Sophie de Rognoncourt, directrice du pôle travail adapté pour l'association des Papillons Blancs de Douai, à l'occasion de cette journée forum citoyenneté et handicap bien vivre ensemble, organisée le mercredi 17 octobre à Lambre-les-Douai. Merci de votre fidélité au 94.10 et à bientôt dans La Puce à l'oreille.
La Puce à l'oreille,
c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the world. We are the children.
La Puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.